Vous écoutez RTL.
Il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et Picasso est à l'honneur ce matin sur RTL puisque dans les mois à venir, des dizaines d'expositions consacrées au peintre andalou vont avoir lieu en France et dans le monde. À tout seigneur, tout honneur, le musée Picasso à Paris ouvre les festivités et met en avant Olga Koklova, la première épouse de Pablo Picasso. Pour nous en parler ce matin, en compagnie de Monique Younès, que je salue, nous recevons le directeur du musée Picasso, Laurent Lebon. Bonjour Laurent Lebon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous d'ici 2019. De Paris à Naples, de Madrid à Pompéi, de Rome à Rabat, des éclairages nouveaux vont nous permettre de mieux connaître l'œuvre pléthorique de ce génie absolu. Qu'est-ce qui se passe, Laurent Lebon? Pourquoi cette fièvre picassienne tout à coup est mondialisée?
C'est l'effet magique, c'est le printemps, c'est le pouvoir des fleurs. Picasso nous surprend toujours. Et nous avons voulu le montrer sous toutes ses facettes, dans une vision un peu kaléidoscopique et, comme vous l'avez dit, aussi une vision méditerranéenne.
Alors, nous allons commencer par l'exposition du musée Picasso, bien entendu à Paris, que vous dirigez depuis près de 2 ans. Je le rappelle, pourquoi une exposition consacrée à Olga Picasso?
Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'y en avait jamais eu. Donc pour nous, c'était évidemment fondamental de donner le pouvoir de la redécouverte picassienne à travers le prisme de sa première femme, car c'est sa première femme. Ils se sont rencontrés en 1917, donc nous fêtons le centenaire de leur rencontre. Ils se sont mariés en 1918. Il fallait raconter cette histoire.
Monique Younès, vous avez visité l'exposition Olga au musée Picasso et vous avez découvert un personnage beaucoup plus complexe que les historiens et critiques d'art nous l'avaient décrit jusqu'à présent.
C'est qu'il ne connaissait pas tout. Il y avait la malle d'Olga, comme il y a eu la malle de Newton et bien d'autres valises mystérieuses qui ont changé les histoires que l'on croyait connaître. Et dans la malle d'Olga, une goyard, forcément, que vous exposez, Laurent Lebon, au musée Picasso, se trouvait la correspondance entre Olga et sa famille russe. Et à partir de là, tout change. Et c'est aussi ce qui fait de cette exposition une des plus émouvantes jamais conçues autour de l'œuvre de Picasso. Elle nous fait entrer vraiment dans l'intimité d'Olga et de Pablo Picasso avec une délicatesse et une franchise absolue. Ils se sont rencontrés, vous l'avez dit, Laurent Lebon, à Rome en 1917, grâce à Cocteau. Et une photo dans votre musée les montre tous les trois, très souriants, jeunes et beaux. Olga Koklova est alors ballerine dans la troupe de Diaghilev, les ballets russes. On se souvient que Picasso a réalisé le rideau de scène, oui, du spectacle Parade. Il est à Rome pour assister à la première. Il s'éprend d'Olga, élégante, gracieuse, forcément sublime. Il l'épouse où, Laurent Lebon?
Rue d'Aru, dans cette fameuse église russe, dont on a une nouvelle mouture récemment, mais l'église russe est là, le cœur de ce moment magique qui va commencer en 1917.
Voilà, il la ramène à Paris, il en est dingue, jusqu'à ce que 12 ans plus tard environ, il tombe amoureux d'une autre, la jeune et frétillante Marie-Thérèse Walter. Et Picasso va alors mener une double vie des plus compliquées. L'exposition montre à la fois l'évolution des sentiments de Picasso et l'influence qu'ils exercent sur sa peinture. Amoureux d'Olga, Picasso la peint sublime, coiffée d'une mantille, alanguie dans un fauteuil, maternant leur fils Paul. Et à l'arrivée de Marie-Thérèse, Olga est peinte tantôt comme un monstre avec une bouche dévorante, tantôt en cheval transpercé par un taureau ou encore en femme violée par un minotaure. Mais c'est extraordinaire combien le style de Picasso change avec ces deux femmes, Laurent Lebon.
Une sorte de révolution. On a d'ailleurs voulu utiliser l'architecture de l'hôtel Salé pour montrer ce moment extraordinaire qui fait qu'on passe d'une histoire à une autre. Donc le rez-de-chaussée est un moment de sérénité jusqu'à la naissance de l'enfant tant attendu. Et l'étage supérieur, c'est le moment des révolutions esthétiques, comme vous l'avez merveilleusement dit.
Alors effectivement, ce premier étage où la joie de vivre, la sérénité, le ton est bleu, le trait est doux, et après, toutes des membres. Alors là, mais franchement, c'est la révolution totale.
Et c'est finalement peut-être une allégorie du moment que nous vivons dans notre pays. Il y a comme ça une sorte de dialectique entre une attente, finalement, une sérénité, une harmonie brisée, et là, dans un autre moment, Picasso nous fait encore voir le monde différemment.
Est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi de vous interrompre, que l'œuvre de Picasso est essentiellement autobiographique?
Cher Yves Calvi, je crois que c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire que Picasso permet toutes les lectures. À Madrid, début avril, on va fêter l'anniversaire de Guernica d'une toute autre manière, avec une vision qui n'est pas du tout biographique, ou au contraire, on sera plutôt dans le politique. Là, au musée Picasso, comme l'a dit Monique Younès, on a voulu revenir à l'intime, et notamment dans ce dialogue entre œuvres magiques, des très grands chefs-d'œuvre, et la précision, le secret des archives dévoilé pour la première fois.
Alors justement, qu'avez-vous appris, vous, Laurent Lebon, que vous ne connaissiez pas de cette relation, notamment entre Olga et Pablo Picasso ?
Je crois que c'est ce quotidien. Je crois que ce qui est magique, ce sont ces photos noires et blancs qui contrastent par leur toute petite dimension aux grands chefs-d'œuvre picturaux et on voit combien finalement un couple s'aime. Je crois qu'on ne le dit pas assez, Picasso est parfois présenté un peu rapidement comme un monstre cannibale et là je crois qu'il fallait tout simplement dire et redire que Picasso était aussi un père aimant, un extraordinaire amant sur tous les aspects visiblement et... Là, dans cette exposition, on a le reflet finalement d'un couple idéal. Et je crois qu'il faut le dire aussi, Picasso revient dans une période qui est ingresque. On a ce classicisme qui apparaît au début et qui explose à l'étage.
Et c'est merveilleux, effectivement, dans cette période, comment il représente Olga, mélancolique, en train de lire. Elle est d'ailleurs toujours en train de lire. C'est fascinant à voir, mais ce ne sont pas des romans de Dostoïevski ou de Tchekhov qu'elle a entre les mains, Laurent Lebon.
En fait, on ne sait pas ce qu'elle lit. Souvent, quand on regarde ses livres, ils sont blancs sur les peintures. Et je crois que c'est aussi ça, ce moment magique de l'exposition, c'est le rêve. Au fond, on l'oublie un peu rapidement car on a tendance à vouloir tout raccrocher à des faits. Mais là, il y a ces pages ouvertes finalement sur un imaginaire à construire ensemble.
Mais c'est extraordinaire parce que vous montrez effectivement en écho à ces tableaux les lettres qu'elle recevait de sa mère, de sa sœur, restée en Russie. Le contenu est ravageur. Et on se dit, mais comment cette femme n'est pas devenue un peu schizophrène, quoi. Elle vivait à grand train avec Picasso et de l'autre côté, elle recevait effectivement des nouvelles monstrueuses comme quoi son père, son frère, etc., tous sont morts quoi, pendant la Révolution.
On a une plongée dans l'histoire. Je veux dire, évidemment, tout cela ne peut pas se faire sans ce contexte de la Révolution russe, des Révolutions russes. Et c'est ce qui apparaît, comme vous le dites, c'est une autre révélation de l'exposition. Dans toute cette correspondance, elle gardait cet ancrage extraordinairement politique, au fond, au sens noble du terme. Je crois qu'Olga a ouvert beaucoup de portes à Picasso, qui a vu en elle, bien sûr, l'être aimé, mais aussi tout un univers qu'il ne connaissait pas. Et on le découvre dans l'exposition.
Et il y a eu, effectivement, beaucoup de chefs-d'œuvre exposés, comme un magnifique tableau dans lequel Picasso peint son fils Paul, en chaussons rouges, dessinant une colombe. Un tableau comme a commenté le fils de Paul, Bernard Picasso, donc petit-fils de Picasso, co-commissaire de l'exposition, autour de sa grand-mère Olga, écoutez.
Dans ce tableau, on voit Paul dessinant, il dessine un cygne, l'animal, et dans les correspondances, nous avons trouvé une lettre d'une sœur d'Olga qui dit à notre fils, remercie Paul pour lui avoir envoyé ce dessin de cygne. Donc on se doutait bien, l'œuvre de Picasso, c'est son autobiographie. Il y a cette preuve-là, mais il y en a d'autres aussi, mais celle-là, je trouve assez intéressante de voir directement peint une œuvre qui retrace un événement réel.
Et une des citations que l'on peut lire dans l'exposition signée Picasso dit ceci, Laurent Lebon, « Chaque tableau est une fiole pleine de mon sang. C'est avec cela qu'il a été fait. » Vous diriez que Picasso est un artiste torturé, alors qu'on a plutôt une image de lui torturant ses femmes ?
C'est toute l'extraordinaire variété de l'œuvre de Picasso, dialectique entre ce pôle de la sérénité, de l'harmonie et ce pôle de la révolution. Je crois que cette phrase, une fois de plus, le résume. Il avait le sens des mots et dans une radio comme la vôtre, je crois qu'il pourrait être un magique chroniqueur.
Et bien justement, restez avec nous. Nous irons après la pause en Normandie, au Bois Gelou, c'est comme ça qu'on prononce ?
Oui.
Ben voilà, dans la maison de Picasso, mais aussi à Rouen, où trois musées consacrent des expositions autour de Picasso. À tout de suite avec notre invité, Laurent Lebon.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. 9h12, laissez-vous tenter. La France célèbre Picasso cette année. Et pour nous en parler, le principal inspirateur de ces festivités, Laurent Lebon, directeur du musée Picasso à Paris, est notre invité. Laurent Lebon, quand un musée programme une exposition Picasso, c'est le record d'affluence garanti ?
Souvent. Mais je crois qu'il ne faut pas lasser les gens. C'est pour ça que dans ce festival picassien que vous annoncez et que nous avons essayé de mettre en musique, nous avons toujours cherché de nouveaux regards. Mmh. S'il faut aligner la nouvelle énième exposition biographique avec quelques portraits, le public ne répond pas présent. Et je crois que le public aujourd'hui est exigeant, il a raison, il a envie d'être accueilli, il a envie d'être aimé. Et c'est pour ça que notre pays, et notamment la capitale, offre encore une fois en ce printemps un festival, un feu d'artifice d'exposition dont nous avons notre modèle. modeste pas.
Alors vous venez de l'évoquer, le grand public connaît bien le Picasso, on va dire, méditerranéen, celui qui a habité et travaillé à Antibes, à Juan-les-Pins, à Valoris, à Cannes, ou même à Vauvenargues. D'ailleurs, dès le 10 avril, nous pourrons voir les clichés pris dans le sud par Edward Quinn au musée Picasso Antibes. À Perpignan, le musée Hyacinthe Rigaud a lui aussi choisi pour sa réouverture au mois de juin de montrer les œuvres de Picasso en vacances, en Méditerranée. Mais on ignore presque tout du Picasso normand, celui qui a vécu à Bois-Geloux.
Oui.
À chaque fois, j'ai un doute, excusez-moi. Dans l'heure, racontez-nous pourquoi Picasso achète cette maison à Bois-Geloux, à quelques kilomètres de Gisors.
Picasso est aussi un extraordinaire collectionneur d'architecture. On l'oublie. Le château de Vauvenargues, l'appartement des grands Augustins. C'est pour ça qu'on a choisi aussi l'hôtel Salé, hein, à Paris, on l'oublie. Picasso n'y a pas vécu, mais c'était rendre hommage à cet intérêt profond qu'avait Picasso pour l'architecture classique.
L'hôtel Salé qui est devenu le musée Picasso.
Qui est devenu le musée Picasso en 1985, 30 ans d'histoire déjà. Et Bois-Geloux, au fond, c'est là aussi une magnifique petite demeure. C'est pas un château somptuaire, mais assez proche de Paris. Évidemment, toute l'histoire de la lumière normande, hein, des impressionnistes, comme un contrepoint, évidemment, du génie picassien. Il lui faut un endroit pour accueillir une nouvelle partie de son œuvre, notamment sculpturale. C'est là où il va y avoir cette révolution qui va être magnifiée dans l'extraordinaire exposition que va nous proposer le Musée des Beaux-Arts de Rouen.
Effectivement, à partir du 1er avril, une saison Picasso sera déclinée à Rouen, dans trois lieux, présidés par Sylvain Amic. Il y a le Musée des Beaux-Arts, le Musée de la Céramique, le Musée Le Sec des Tournelles. Alors là, quelles sont les nouvelles facettes de Picasso qu'on va découvrir?
Là, c'est une plongée dans l'atelier. C'est une plongée dans la création. Bois-Geloux, c'est vraiment le moment où, vous l'avez dit tout à l'heure, la dialectique, cette tension entre deux femmes, hein, Olga, dont on a parlé tout à l'heure, et Marie-Thérèse, qui apparaît en 1927. Et Bois-Geloux, qui est acquis en 1930, va être un peu, j'allais dire, le chaudron de cette métamorphose culturelle. Les formes sont complètement boursouflées, extravagantes, et on aura le plus beau rassemblement. Et étrangement, c'est un petit peu comme avec l'exposition Olga, nous avons, dans cette expo du Musée des Beaux-Arts de Rouen, la première plongée en profondeur dans ce qu'on pourrait dire être le processus créatif de cet atelier qui n'avait jamais été mis en valeur.
Un des événements normands est l'ouverture exceptionnelle, hein, le temps de 4 week-ends du Bois-Geloux, la maison achetée par Picasso en 1930. Il va y vivre jusqu'en 1935. Vous avez visité, Monique, cette demeure assez secrète avec Bernard Picasso, donc le petit-fils du peintre, qui y a passé son enfance.
Oui, une enfance heureuse, m'a-t-il dit. Bernard Picasso venait en vacances à Bois-Geloux dans les années 60. C'est une gentilhommière qui faisait partie du hameau défensif du château de Gisors, château des Templiers qui délimitait pendant la guerre de Cent Ans la frontière avec les Anglais, ce n'est pas rien. D'ailleurs, quand vous vous promenez dans le parc, cherchez les souterrains qui mènent au château de Gisors. Ils ont été comblés, mais on peut encore descendre quelques marches, ce que j'ai fait avec Bernard Picasso.
On voit encore des voûtes très très belles avec les marques des maçons de l'époque qui signaient chacune des pierres par un numéro. Et les gens pouvaient passer avec un cheval à la main.
Alors, avant d'aller chercher le souterrain, vous pourrez découvrir la propriété constituée donc cette gentilhommière avec une chapelle, une basse-cour, un pigeonnier et des communs où Picasso travaillait.
Ça, c'est l'atelier dans lequel il faisait ses sculptures qui sont dans d'anciennes granges où vous entreposez, j'imagine, les calèches. Ça, et donc l'atelier n'est pas si grand que cela en réalité. Mais comme toujours chez Picasso, c'est-à-dire qu'il investit un lieu, il le remplit et il fait des choses de dimensions très grandes. Picasso a créé beaucoup de ses sculptures et certainement il devait se faufiler entre chacune pour pouvoir les créer.
Alors on ne verra pas dans l'atelier de sculpture de Picasso, mais on voit l'échelle sur laquelle il se perchait pour sculpter.
C'est là-dessus qu'il a fait cette grande sculpture qui s'est cassée. Ensuite, il a fait des sculptures plus petites, mais il utilise tous les objets qu'il a autour de lui, c'est-à-dire le fil de fer, du bois, des balles de tennis, il pouvait utiliser des parties de grillage de cage à lapin. Tout ça lui a permis de créer son œuvre sculptée, de jouer aussi avec le plâtre.
Vous avez visité Bois-Geloux, Laurent Lebon, c'est une des propriétés les mieux conservées de Picasso, il me semble.
J'ai eu cette chance. Et comme le dit magnifiquement Bernard, qui est aussi l'initiateur de cette exposition Olga dont on parlait à l'instant, les traces sont là, au sol, on y voit la peinture, on a l'impression que Picasso nous a quittés hier. Et on a trouvé d'ailleurs les films qui témoignent de cette vie magique d'harmonie qu'on expose à Rouen et à Paris. Donc c'est la première fois qu'on les découvre et c'est là aussi un des beaux moments de cet événement normand
Et parisien.
Et parisien.
Vous l'avez compris, Picasso est à Paris, dans le sud, en Normandie, mais aussi chez nos voisins méditerranéens. Nous allons voyager dans un instant avec Laurent Lebon en Italie, en Espagne et au Maroc. A tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
9h20 sur RTL, nous poursuivons notre rencontre avec Picasso, avec Laurent Lebon, directeur du musée Picasso à Paris. La France n'a pas le monopole de Pablo Picasso, puisque des expositions ont lieu en Espagne, en Italie, et pour la première fois à Rabat, au Maroc, au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Le royaume devient ainsi le premier pays africain à accueillir une exposition des œuvres de Picasso. Pourquoi le Maroc ?
Je crois que tout simplement, la Fondation des musées marocains et M. Kotbi, son président, sont venus nous voir. Et nous avions lancé cette opération Picasso Méditerranée. Ce musée est tout récent, a abrité l'œuvre de Giacometti l'année dernière. Et tout simplement, nous avons répondu à une attente. Et je crois que dans la mission d'un musée national, il y a aussi l'idée d'être ouvert au monde. Je crois qu'on ne peut pas être cantonné dans nos magnifiques murs du Marais. L'œuvre de Picasso est pour tous. Et je crois que c'est vraiment ce qui nous distingue d'une collection privée. Il faut aller de l'avant et toujours montrer, quand les conditions le permettent, bien sûr, l'œuvre de Picasso. Et là, j'avoue qu'on a hâte d'être à mi-avril, car il y a une attente incroyable. On a eu la chance de pouvoir montrer Picasso en Amérique latine il y a quelques semaines. C'est des centaines de milliers de personnes et je crois que c'est émouvant de voir que la mission du musée, qui consiste à remontrer l'œuvre originale authentique à l'ère du numérique, continue encore à fonctionner.
Vous allez exposer des dessins, des tableaux. Qu'est-ce qu'on va voir ? Un thème particulier ?
On va y voir une centaine d'œuvres et on a, comme on le disait tout à l'heure, voulu vraiment montrer le meilleur de Picasso. Là encore, il ne faut pas se moquer du public, il ne faut pas aller chercher les fonds de tiroir, il faut, pour être à la hauteur de l'œuvre du maître, montrer le meilleur de ce qu'il a produit. Et c'est pour ça que nous avons choisi un parcours chronologique autour de la figure, évidemment quelque chose d'essentiel dans le monde picassien, qui, je crois, montrera toute la diversité du talent, pour pas dire le génie, de Pablo.
Alors en Italie, c'est le rideau de Seine-Parade qui retourne, il me semble. Il retourne à Rome ?
Il retourne à Rome et à Naples. Là, je crois que c'est vraiment un événement extraordinaire. Nos collègues du Centre Pompidou ont accepté ce prêt. C'est le plus grand Picasso du monde et il va être montré au musée Capodimonte. Pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est sans doute un des plus beaux musées d'Italie. On est à Naples, légèrement au-dessus du cœur historique de la ville. Dans le salon d'honneur, va être là montré en majesté le plus beau Picasso italien, si je puis me permettre, car il a été fait aussi nourri de l'Antiquité. C'est en visitant Pompéi et Herculanum que Picasso se nourrit de cette Antiquité qui va bien sûr irriguer son œuvre, qu'on a appelé un peu rapidement Retour à l'ordre, mais on peut parler plutôt d'une nouvelle ère qui s'ouvre, qui est aussi montrée dans l'exposition Olga à Paris. Et Rome viendra tout de suite après, avec là aussi une magnifique exposition, mais un parti pris légèrement différent, puisque ça sera plus un panorama sur une vingtaine d'années de l'œuvre picassienne.
Alors 2017 est aussi l'année des 80 ans de Guernica, une des plus célèbres toiles de Pablo Picasso, sinon la plus célèbre. Il l'a peinte entre le 1er mai et le 4 juin 1937 à Paris, pour le pavillon espagnol de l'exposition universelle. Vous pouvez nous rappeler l'histoire particulière de cette toile, Laurent Lebon ?
C'est le Picasso politique. C'est comment, en une œuvre, Picasso a révolutionné la peinture d'histoire. On se souvient de ce terrible bombardement de ce village, cette commande qui était précédente à cet événement historique, commande du gouvernement espagnol pour le pavillon. On commande souvent à des artistes et Picasso répond très vite dans l'urgence, dans son atelier des Grands Augustins, avec ce tableau qui reste encore aujourd'hui le monument absolu pour dire les horreurs de la guerre et ô combien d'actualité. C'était assez fascinant de voir que dans des manifestations pour la paix, des personnes tenir comme banderole des reproductions de Guernica et parfois de la colombe dans cette dialectique. Et là, je crois qu'on trouve tout le génie picassien d'avoir su symboliser en deux œuvres très différentes toute la tension du XXe et du XXIe siècle.
Alors depuis 2012, Guernica est exposée au musée Reine Sofia à Madrid, 25 ans déjà. Elle fait partie de ces œuvres qui ne voyagent plus, Laurent Lebon ?
Oui. Je crois que c'est pour des raisons évidentes. C'est vraiment d'ailleurs le souhait de Picasso lui-même, qui avait souhaité que lorsque la démocratie sera à nouveau instaurée dans le pays où il était né, que le tableau revienne, puisqu'il avait été longtemps conservé à New York. Et donc, après un passage au Prado, il est maintenant au Reina Sofia. Et je crois que c'est sa place. Il faut aussi que des œuvres ne bougent pas. Je crois que la Joconde, Guernica sont des œuvres liées à un musée et elles ont leur sens là. Il faut faire l'effort d'y aller.
À partir du 4 avril, le musée Reine Sophia présentera donc l'exposition Le Chemin vers Guernica pour célébrer cet anniversaire. 150 chefs-d'œuvre de l'artiste en provenance de plus de 30 institutions du monde entier, dont le musée Picasso, seront réunis. Quelles œuvres avez-vous prêtées, Laurent Lebon ?
On a prêté une trentaine d'œuvres autour, justement, avant et après 1937. Et le sous-titre de l'exposition marque l'idée de terreur. Et donc là, c'est un aspect, j'allais dire, l'inverse de l'exposition Olga. On a voulu montrer comment Picasso n'a pas non plus créé Guernica de manière unique. Comment il y a aussi une logique d'esquisse, de processus créatif, un contexte, j'allais dire, vraiment un parti pris à l'exact opposé de l'exposition sur Olga au musée Picasso. Mais c'est ça aussi, la force de l'œuvre de Picasso, elle permet plusieurs lectures.
Et donc, trop de Picasso ne tue pas Picasso, Laurent Lebon ?
Je crois que Picasso, c'est toujours plus fort que nous. Et je crois qu'on le voit bien dans ce feu d'artifice. Je suis sûr que le public ne sera pas lassé. Il y a toujours à voir et à revoir, y compris au musée du Quai Branly, dans ses liens avec l'Afrique et l'Océanie la semaine prochaine.
Laurent Lebon, merci beaucoup d'avoir passé cette demi-heure avec nous et de nous avoir détaillé le programme de ces festivités pour les mois à venir en France, à l'étranger. On marque une dernière pause avant de retrouver Julien Courbet. Merci beaucoup Laurent Lebon de ce merveilleux moment que nous avons passé avec vous et avec l'œuvre de Picasso pour ces mois qui s'annoncent et qui sont absolument magnifiques. Vous vouliez ajouter une dernière chose, Monique ?
Ben que je suis très heureuse de recevoir Laurent Lebon et surtout, surtout qu'il faut aller voir ces expositions Picasso, notamment celle qui a lieu au musée Picasso à Paris, Olga, qui est vraiment magnifique.
D'une œuvre à l'autre, nous passons donc maintenant de Picasso à Courbet.
Oui, effectivement. Et j'étais en train justement de demander à Maître Nankovitch si elle ne voulait pas qu'on fasse une nouvelle version de l'Origine du Monde. Elle m'a expliqué qu'aujourd'hui, ça ne l'arrangeait pas. Non. Donc on va prendre un rendez-vous.
Je vous laisse voir ça avec
oui,
elle.
Oui. Vous savez,
vous choisissez vos modèles et
effectivement.
Avec vous.
Ah bah j'ai soit Maître Felono, soit Maître Nankovitch. Il faut que je regarde mes stocks de peinture pour voir celle qui va m'en coûter. On va voir. Je vais regarder. Je vais faire ça tranquillement. Merci, Yves.
Bonne émission.
Merci.